bonjour à tous. Le motif terroriste finalement retenu lors de l'attaque de Villejuif. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire hier après que les enquêteurs ont recueilli suffisamment d'éléments appuyant la thèse d'un acte réfléchi, prémédité. Plus de détails dans quelques instants. La réforme des retraites envisagée par le gouvernement ouvre-t-elle la voie à un système par capitalisation? C'est l'une des nombreuses critiques faites au projet. Nous tenterons d'en savoir plus. Et puis à suivre, le bilan humain s'alourdit en Australie où les incendies sont ravivés à la faveur de conditions météo catastrophiques. Et puis enfin, le secret d'une bonne galette des rois, ce sera, vous l'aurez compris, pour la fin.
Ce journal pour le dessert avec plaisir. Les invités de la matinale à 7h50, Patricia Martin, vous recevrez...
La psychanalyste et prof de philo Hélène Leuillet pour l'éloge du retard.
Et à 8h20, Régis Debray, s'il n'est pas en retard, pour son essai Le siècle vert, apparaître jeudi dans la collection Tract Gallimard.
France Inter.
Et finalement, donc, le parquet national antiterroriste se saisit de l'enquête sur l'attaque de Villejuif.
Attaque au couteau ayant eu lieu vendredi après-midi dans un parc. Un jeune de 22 ans a tué une personne et fait deux blessés. Avant d'être abattu par la police, l'assaillant présentait un profil psychiatrique fragile. Selon le parquet antiterroriste, il avait toutefois préparé son attaque. Sophie Parmentier.
Le parquet national antiterroriste s'est saisi car il estime que les enquêteurs ont amassé suffisamment d'éléments prouvant à la fois une radicalisation islamiste et la préméditation de l'agresseur du parc de Villejuif. Ce jeune homme, prénommé Nathan, s'était converti à l'islam il y a environ 2 ans. Quand il a surgi face à sa première victime avant-hier, vêtu d'une djellaba bleue, porteur d'une barbe et armé d'un couteau, il a crié « Allahu Akbar », l'air déterminé. Sa première victime a finalement été épargnée. C'était un musulman qui a récité une prière du Coran pour avoir la vie sauve. L'agresseur a poignardé les passants suivants, un couple puis une jeune femme. Les enquêteurs ont retrouvé dans le sac à dos de l'attaquant des écrits qui font penser à un testament, comme en rédigent les terroristes qui s'apprêtent à mourir en martyr. Mais les mots sont ici très confus et ne parlent pas de Daesh. Les enquêteurs, perplexes, se demandent si l'agresseur de Villejuif a pu être téléguidé par un quelconque donneur d'ordre. Sa maman a répété aux policiers que son fils souffrait de troubles psychiatrique profond depuis qu'il avait 5 ans. Il avait passé l'an dernier plusieurs mois en hôpital psychiatrique et ne prenait plus le traitement médicamenteux qui lui avait été prescrit.
Sophie Parmentier. À retenir également cette marche organisée à Marseille aujourd'hui, marche contre la décision de la Cour d'appel de Paris rendant le meurtrier de Sarah Halimi pénalement irresponsable. Kobili Traoré, qui n'aura pas de procès pour avoir tué cette sexagénaire juive en 2017. En raison de son état psychiatrique. C'est une semaine politique importante qui s'ouvre demain en pleine grève contre la réforme des retraites. Demain, premier conseil des ministres de 2020. Mardi, les concertations gouvernement partenaires sociaux reprennent avant deux grandes mobilisations syndicales jeudi et samedi prochain. Dans une enquête, dans un sondage IFOP publié dans le JDD, 75% de Français pensent que le gouvernement ira jusqu'au bout de la réforme. Réforme du système de retraite, pourtant très décriée, certains syndicats y voient notamment une porte ouverte à un système par capitalisation, et ce, en raison d'un aspect bien précis de la réforme, la baisse des cotisations pour les hauts revenus qui pourrait pousser les cadres dirigeants à opter pour l'épargne privée. Alors y a-t-il de quoi s'inquiéter? Delphine Simon nous éclaire.
Aujourd'hui, avec plus de 10 000 euros de revenus par mois, les très hauts salaires cotisent pour leur retraite jusqu'à 8 fois le plafond de la Sécu. Avec la réforme, ce plafond sera abaissé. Les très hauts cadres cotiseront uniquement pour le bas de leur salaire, au-delà de 120 000 euros par an, charge à ces très hauts revenus et à leurs employeurs de s'assurer un complément de retraite en se tournant vers des fonds privés, par exemple. De quoi créer de l'intérêt pour l'épargne retraite, jusqu'ici peu développée en France, relève des experts du secteur, mais à la fin, l'impact pour le système sera modeste. À peine 1% de la population active, 300 000 salariés sont concernés et leur rémunération pèse moins de 10% des revenus versés au régime des retraites. Pas de quoi mettre à mal l'équilibre du système et le principe de la répartition, mais pour la centrale des cadres CFE-CGC comme pour la CGT, c'est le cheval de Troie de la capitalisation.
Delphine Simon.
Alors vous le disiez Raphaël, deux grands rassemblements syndicaux sont attendus la semaine prochaine. Mais hier déjà, des manifestations de moindre ampleur étaient organisées.
Dans des villes comme Marseille, Rouen, Le Havre, Rennes, des centaines de personnes comptaient dans chacune d'entre elles. À Paris, il y avait 3500 personnes selon la préfecture de police, plusieurs milliers selon les syndicats. Autre rassemblement hier après-midi en France, des gilets jaunes à Toulon, où il y a un an, un policier avait été filmé en train de frapper un homme. Déjà dans un rassemblement de gilets jaunes, ce commandant Didier Andrieux, qui n'a toujours pas été entendu dans l'enquête, mais trois gilets jaunes, eux, ont été mis en examen, les frères Fabien et Laurent Attard notamment. Et donc la manifestation d'hier visait principalement à demander des éclaircissements dans cette affaire. Reportage de Stevelan Chesi-Gostovic.
Roger, le père des frères Attard, est impatient.
On en a marre. Maintenant, il faudrait que ça se fasse et dans la propreté. Quant à Andrieux, la première chose qui devrait être, c'est condamné d'avoir frappé des gens.
Car c'est lui la cible de toutes les attaques, confirme Liliane, qui est dans le cortège.
C'est contre lui qu'on manifeste. C'est pour le réveiller qu'il faut qu'il soit jugé, comme tous les gilets jaunes.
Une plaque est déposée sur le lieu des violences policières pour dénoncer l'arrestation. Laurent Attard se souvient bien de ce qu'il s'est passé au même endroit il y a un an.
Coup de poing, là-bas, coup de poing, coup de casque, menotté, amené ici, la voiture, elle était là, tu te rappelles, 48 heures de garde à vue, un casier judiciaire, interdiction de venir ici.
Devant le commissariat, Frédéric Attard, troisième frère, veut croire à des aveux.
Si franchement, ces messieurs avaient avoué, vous savez, faute avouée à demi pardonnée, hein, c'est ce qu'on dit. En tout cas, nous, on l'aurait pris en compte. Mais de là à faire comme ils ont fait, à faire croire que nous étions des gens qu'il faut monter une insurrection, c'est n'importe quoi.
Symboliquement, le cortège des gilets jaunes s'est arrêté devant le palais de justice de Toulon, en signe d'impatience.
La tension monte encore d'un cran entre États-Unis et Iran. Donald Trump menace encore Téhéran ce matin. Il menace les Iraniens, je cite, de les frapper plus fort qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Le président américain évoquait hier 52 sites en Iran potentiellement ciblés dans les prochains jours.
Le bilan des incendies dans l'est de l'Australie, on monte à 24 morts.
Les autorités parlent également de dégâts considérables, de centaines de maisons détruites. Les incendies démarrés en septembre sont de surcroît ravivés ce week-end par des conditions météo catastrophiques, une canicule. Des dizaines de milliers de personnes ont d'ores et déjà été évacuées de leur habitation, comme Peter, habitant de Moruya sur la côte sud-est et qui a dû rejoindre Canberra, la capitale.
J'ai mis 12 heures pour venir de Batson Bay jusqu'à Canberra en voiture, alors que d'habitude, ça prend seulement 2 heures. Et là, on n'a aucune idée de quand on va pouvoir rentrer chez nous. J'espère que la maison ça va, mais avec toutes les routes fermées, ça risque de prendre encore une semaine. Mais vous savez, on est plutôt chanceux. C'est bouleversant ce qui se passe. C'est une tragédie pour beaucoup de monde. Et du fond de mon cœur, je suis avec eux.
Peter, un de ses habitants qui a dû être évacué de son habitation. Des déclarations recueillies par Gaël Joly. Je ne sais pas si vous avez vu ces images, Eric, elles tournent sur les réseaux sociaux, ces glaciers à la teinte marron en Nouvelle-Zélande. La neige vire à cette couleur en raison des fumées provenant d'Australie, l'île continent qui est tout de même située à 2000 km de là, donc de la Nouvelle-Zélande.
Demain en France, ce sera l'épiphanie, mais beaucoup vont sans doute déjà savourer la galette des rois au dessert tout à l'heure.
La galette des rois et sa fève tant convoitée qui s'invite donc dans nos assiettes ce week-end, voire durant tout le mois de janvier. Les secrets d'une galette réussie, c'est avec Théo Hetch qui s'est rendu dans une boulangerie parisienne du 19e arrondissement.
Le secret, c'est d'abord la patience. Beaucoup de temps de repos pour une pâte bien feuilletée à l'âne, le pâtissier.
Ça a été pétri hier matin. Hier après-midi, l'équipe de l'après-midi ont passé tout à 4 tours. Et ce matin, on vient faire 6 tours là. On va les détailler. On va encore les laisser reposer et ensuite on va les garnir en frangipane.
Frangipane classique ou aromatisée selon les goûts.
En ce moment, on a fait une crème pâtissière exotique, l'aromatisée avec fruits de la passion. Et on remet une marmelade de fruits rouges en plus, c'est un peu comme une confiture. On fait la poire chocolat classique, la pomme. Et interdit de garnir si on ne voit pas la fève.
La fève bien installée dans la crème, on recouvre avec le deuxième pâton. Et petit conseil de l'apprenti pour bien coller.
Alors pour pas que dans le four ça se réouvre, on le cercle. Comme ça, au moins, ça colle.
Puis on dort avec de l'œuf, et là aussi, petit conseil.
On dort une fois, mais au frigo, une demi-heure, une heure. Un deuxième coup, et ça change tout. La première fois, ça va absorber, ça va boire, ben, c'est comme la peinture. Hein. Faut deux couches, même avec les pâtes Herta. Hein.
Okay. Et enfin, la cuisson avec Alexandre. Attention, c'est sensible.
Généralement, c'est à 160 degrés. On compte une bonne heure, parce qu'on va avoir l'impression que le haut est cuit. Mais en fait, faut regarder en dessous. Faut savoir aussi, après, c'est à l'œil. On marche beaucoup, beaucoup avec les chronos. On en a un là, on en a trois là.
Et au bout d'une heure... La dégustation. Ici, après une fève Johnny l'an dernier, place à des fèves licorne cette année.
Un reportage signé Théo Hetch.
La fève Johnny, je demande à voir tout de même. C'était le journal de Raphaël Delvolvé. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
La couronne sur la tête de Jean-Michel Golinski pour nous dire que le soleil se montre plus facilement dans la moitié sud et aussi sur la Bretagne.
Ah, tout à fait Eric, avec déjà un ciel bien dégagé autour de la Méditerranée où le Mistral et la Tramontane soufflent quand même assez fort, vers 100 km à l'heure, du soleil également en montagne. Ailleurs la journée débute souvent dans la grisaille, mêlée de brouillard et de nuages bas. Tout ceci va évoluer assez favorablement vers l'éclaircie sur la partie pointe ouest et au sud de la Loire. Mais de la Normandie au bassin parisien et des Hauts-de-France au quart nord-est, là l'ambiance va souvent rester plus grise jusqu'en fin de journée, avec cet après-midi des températures de 4 à 5 degrés pour les valeurs les plus basses entre Metz, Strasbourg, Dijon et Grenoble, 16 pour les plus élevées entre Perpignan, Toulon et la Corse, et de 8 à 10 sur le reste du pays.